bienvenue pour un nouvel épisode de notre podcast Figure franco-allemande. Moi, je m'appelle Anna et je suis très heureuse de vous accompagner aujourd'hui. Dans l'épisode d'aujourd'hui, en rétrospective des élections législatives de 2025 en Allemagne, on parle de politique. Retournons ensemble sur les événements. En novembre 2024, la coalition SPD-FDP-Bündnis 90 Die Grünen, alors Sociodémocrates, Libéraux et Les Verts, a été rompue. Par conséquent, le Bundestag a été dissous et après une campagne électorale bien courte mais intense, l'Allemagne a voté en février 2025 un nouveau Parlement. La CDU-CSU, l'Union chrétienne démocrate, est sortie première des élections suivie par l'AfD, l'extrême droite, en deuxième position, ce qui marque un changement politique profond. En Allemagne, il est habituel que les coalitions politiques soient formées afin de garantir des majorités stables dans le Parlement. L'Union chrétienne démocrate et le SPD ont négocié sur le nouveau traité de coalition et en mai de cette année, Friedrich Merz a été élu en tant que nouveau chancelier fédéral allemand. Mais que signifient ces changements pour l'avenir du couple franco-allemand? Qu'est-ce qui change pour les priorités du gouvernement ainsi que les relations avec la France et la dimension européenne? C'est sur ces questions que nous nous penchons dans l'épisode d'aujourd'hui. Nous sommes très heureux que Christiane a pu en discuter avec Hélène Kohl, journaliste libre et experte reconnue pour la politique allemande. Avec cela, je vous laisse. Viel Spaß et bonne écoute!
Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du podcast Figure franco-allemande. Aujourd'hui avec Hélène Kohl. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci de cette invitation.
Hélène, tu es journaliste indépendante installée en Allemagne depuis 20 ans et tu offres des analyses et des synthèses de l'actualité allemande en français, incluant la politique allemande, les relations franco-allemandes et aussi des enjeux européens. Tu produis également un podcast qui s'appelle Le Podcast avec un K, notamment soutenu par le Deutsch-Französisches Institut de Ludwigsburg et d'autres acteurs du franco-allemand. Est-ce que tu pourrais en parler brièvement?
Oui, tout à fait, et très volontiers. Alors effectivement, le podcast avec un K, parce que c'est un petit peu l'histoire de ma vie. J'ai toujours dit, quand j'habitais en France, je m'appelle Hélène Kohl avec un K. Donc le podcast avec un K, et puis c'est le premier podcast en français qui parle de politique avec un K, et de Kanzler, et de Koalition, und so weiter. Et donc effectivement, je l'ai lancé en 2021 avec le Deutsch-Französisches Institut à Ludwigsburg, à l'origine, juste pour faire 10 épisodes sur les élections législatives fédérales de 2021 et le départ d'Angela Merkel, l'arrivée donc d'un nouveau chancelier après ces 16 années marquées par la CDU de Merkel. Et puis en fait, le succès a été au rendez-vous, donc on a continué après pour la mise en place de la Ampelkoalition et puis avec l'accélération de l'actualité en Ukraine et la crise énergétique, etc., tout naturellement, le podcast a poursuivi son aventure. Et là, on est à peu près une centaine d'épisodes avec un grand temps fort, évidemment, au début de cette année sur la couverture de la campagne électorale allemande, la journée électorale, les négociations qui ont suivi et là, actuellement, la mise en place et les débuts du gouvernement de grande petite coalition de Friedrich Merz. Et ses premiers déplacements à l'étranger, c'est le dernier épisode qu'on a fait ensemble, c'est voilà, les débuts de Merz chancelier.
Ça nous place parfaitement dans le contexte de l'épisode d'aujourd'hui, donc une forte recommandation aussi à toute personne qui écoute notre podcast sur l'actualité politique. Donc aujourd'hui, on va parler d'une rétrospective des élections législatives en Allemagne et on va commencer avec une toute première question. Donc avec la formation officielle d'une coalition entre CDU et SPD et Friedrich Merz comme nouveau chancelier allemand, quelles seront les grandes priorités de ce gouvernement pour les relations franco-allemandes et notamment aussi en comparaison avec le gouvernement sortant?
Alors, je crois qu'on tous les commentateurs et observateurs de la vie politique allemande l'ont vraiment senti ces dernières semaines et même ces derniers mois. Il y a un changement de ton vis-à-vis de la France et vis-à-vis de l'Europe. dans la part de la classe politique allemande, je dirais, la grosse Mitte, donc CDU, SPD, Verts, libéraux. Mais effectivement, on a un gouvernement maintenant mené par Friedrich Merz qui, pendant toute sa campagne, a vraiment mis l'accent sur la volonté de travailler à renforcer cette fameuse souveraineté européenne. Et là, il ne faut pas creuser très loin pour voir qu'il pense évidemment à, à un travail étroit avec la France, puisque c'est Emmanuel Macron, dès 2017, qui a mis sur la table cette question de l'agenda de la souveraineté européenne. Après, quand on regarde le contrat de coalition qui a été signé entre Die Union, donc CDU, CSU et SPD, on voit que cette question franco-allemande n'est pas forcément extrêmement soulignée. Elle ne fait pas l'objet d'un énorme paragraphe, etc. C'est présent, évidemment, mais parmi d'autres sujets européens. En revanche, et ça, c'est très, très, très frappant, c'est la concrétisation des promesses électorales de Merz qu'on a vu très vite lors de ses tout premiers jours en tant que chancelier. Évidemment, il y a la tradition du voyage à Paris, mais on a vu pour la première fois depuis pas mal de temps que cette tradition était en fait, en tout cas, Merz l'a pensée comme étant quelque chose de beaucoup plus effectif et beaucoup plus productif dès le début. En fait, il est allé à Paris dès le 26 février, donc trois jours après les élections fédérales. Il a eu une première rencontre de travail avec Emmanuel Macron, plusieurs heures ensemble. En mars, il y a eu une autre rencontre de ce type-là à Berlin. Et donc, en fait, quand ils se sont vus là le 7 mai, c'était plus qu'une question de protocole, c'était la concrétisation déjà de plusieurs heures de travail en commun. Et ils ont présenté un agenda franco-allemand. Et un agenda pour agir ensemble, pour travailler ensemble. Et donc ça, effectivement, c'est pas forcément écrit dans le contrat de coalition, mais c'est une feuille de route que se sont donné les deux gouvernements. En fait, le premier, le président et le chancelier vont maintenant remettre cette feuille de route à chacun des ministres qui doivent travailler pour faire avancer des dossiers en vue d'un futur conseil des ministres franco-allemand. Donc, on n'en a pas eu depuis 2023. Donc, c'est quand même important qu'il y ait de nouveau, c'est un signal fort, qu'il y ait de nouveau un conseil des ministres franco-allemand qui va se tenir très vraisemblablement à la fin de l'été, peut-être au début de l'automne. La date doit être encore confirmée. Il faut leur laisser le temps un petit peu de travailler. C'est vrai qu'on a vu souvent des conseils des ministres franco-allemands uniquement symboliques parce qu'il faut le faire et qu'il faut envoyer un signal aux autres partenaires qu'on se retrouve. Et puis, en fait, il n'en sort rien. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir des annonces fortes à cette occasion. Donc, changement de tonalité, clairement, par rapport aux années précédentes. C'est une volonté personnelle et propre de Friedrich Merz. Je crois que les Français qui l'ont rencontré ou qui l'ont vu pour la première fois lors de ce déplacement à Paris ont été frappés par la chaleur, l'engagement personnel qu'il met dans cette relation franco-allemande. Et c'est, d'après ce que j'ai comme information, très relayé par son équipe gouvernementale. Donc, les gens autour de lui, ses conseillers propres à la chancellerie sont francophones souvent, francophiles effectivement beaucoup aussi. Donc, c'est vraiment une impulsion qui est importante, qui risque d'être effectivement bien réalisée. Et puis, au sein du gouvernement, même les équipes du SPD, on aurait pu avoir des doutes après les années peut-être un peu plus difficiles sous Scholz. On a, semble-t-il, un engagement quand même assez fort. Je donne juste comme exemple le duo, le binôme qui s'est installé au ministère de la Défense. Boris Pistorius, qui travaille très, très bien avec son homologue français. Et puis, on a maintenant en secrétaire d'État Nils Schmidt, qui était président jusqu'à présent de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, co-président. Donc, qui connaît très bien la France, qui est très engagé et qui maintenant va être, je pense, un binôme assez efficace et en tout cas, des très bons interlocuteurs pour les Français au niveau du ministère de la Défense. Et évidemment, la Défense, c'est central en ce moment.
Donc, on peut conclure avec ce nouveau gouvernement. C'est un signal fort et un signal positif aussi pour une coopération qui va vers l'avant.
Oui, alors moi, je dois dire que bon, c'est mon côté un peu cynique de journaliste et c'est mon rôle d'interroger ce qu'on voit. Et alors, on a eu lors de cette conférence de presse beaucoup d'éléments de langage, les fameux « c'est le retour d'un réflexe franco-allemand, on va faire une concertation étroite et régulière, un nouvel élan, le chancelier parlait d'un neuer Schwung für Europa et un neuer Schwung pour les relations franco-allemandes et neuer Start pour l'Europe ». Et moi, je peux pas m'empêcher de me dire, oui, ben alors, ces dernières années, quand vous nous disiez tous que le moteur franco-allemand tournait à plein régime, que tout allait très bien, vous nous mentiez ou bien vous nous mentez maintenant. Alors, on attend d'avoir des preuves réelles de que cette fois-ci, c'est la bonne et que ça va vraiment bien se passer. Il y a quand même un éléphant dans la pièce, hein, ce qui s'est passé au Bundestag le jour de l'élection de Friedrich Merz. Son assise parlementaire est quand même petite. La coalition n'a que 12 sièges d'avance et il suffit de quelques râleurs ici ou là, sans doute pas concertés d'ailleurs. Hein, ce qui s'est passé vraisemblablement, c'était un peu ces 18 parlementaires qui a manqué à Friedrich Merz. On sans doute agit chacun seul dans son coin, mais il n'a pas eu de majorité au premier tour. Et ça peut se reproduire dans les prochains mois quand il s'agira de prendre des décisions importantes et peut-être difficiles pour l'Allemagne. Et donc l'agenda européen franco-allemand pour l'Europe est audacieux, est ambitieux. Et il faudra évidemment que Merz s'assure à chaque fois d'une assise parlementaire et d'une bonne majorité pour pouvoir pousser ça. Il arrive au pouvoir en état déjà de disgrâce. Il n'y a que 17% des Allemands qu'il considère sympathique. Et on attend qu'il produise la politique qu'il a promis. Il a commencé en piétinant une de ses promesses de campagne, en indiquant que l'Allemagne allait maintenant s'endetter. C'était quelque chose que les Allemands attendaient. Mais en même temps, c'était le contraire de ce qu'il a dit. Donc, il y en a beaucoup qui disent « oui, c'est ce qu'on voulait », mais en même temps, on est obligé de dire qu'il n'a pas respecté le vote de ses électeurs. Donc, c'est un peu une ligne de crête. C'est un homme politique expérimenté, mais ce n'est pas un leader expérimenté. Il n'a jamais gouverné, il n'a jamais été ministre. Et donc, il faudra voir comment il gère cette situation avec, son sens de l'État qui le caractérise. Son envie de faire bouger les choses, son fort engagement européen et aussi un peu d'ego. Je pense que c'est un homme qui a envie d'écrire l'histoire, c'est un homme qui a envie de laisser une trace, c'est un homme qui a envie d'être une personnalité importante pour l'Europe et pour le franco-allemand. Donc on va voir comment il réussit à gérer tout ça. Et c'est ce que je raconterai notamment dans les prochains épisodes du podcast, évidemment, mais qu'on pourra suivre grâce à tous les collègues français, francophones qui écrivent sur l'Allemagne. On va avoir du boulot.
Justement, j'aimerais bien m'interroger des limites aussi qu'il va avoir. Donc, le nouveau gouvernement, il peut légifier quand même avec une majorité, mais comme tu l'as dit, très, très fine. Mais fait aussi face à une opposition forte de l'AfD, die Alternative für Deutschland. Donc, comment est-ce que cette situation pourrait-elle influencer aussi la prise de décision sur des sujets sensibles? On a bien vu avec les manifestations en Allemagne et, comme tu l'as mentionné, le sentiment de la population vis-à-vis de Friedrich Merz.
Alors, effectivement, c'est une position difficile. Moi, c'est quelque chose qui me frappe depuis les élections du 23 février, c'est la puissance de l'AfD. Alors, il ne faut pas trop s'attacher aux sondages actuels qui placent l'AfD au même niveau que CDU-CSU, voire parfois légèrement en tête. Ce ne sont que des sondages, le gouvernement n'a pas encore vraiment commencé à travailler. Je pense que tout ça est un petit peu une vision... un peu ambivalente, ça ne reflète pas totalement la réalité, je pense. Cela dit, l'AfD est puissante parce que c'est la première force d'opposition et elle est extrêmement... C'est vraiment quelque chose qui me frappe et qui même me met des frissons dans le dos. C'est ils sont extrêmement présents, visibles, bruyants à Berlin. Dans le Bundestag, quand ces 150 députés de l'AfD se mettent à applaudir ou à huer, ça fait énormément de bruit. C'est-à-dire ils sont maintenant incontournables, inévitables. On ne peut plus dire « bon, on les ignore, on les met dans un coin et on continue à faire comme avant ». Une anecdote, j'étais dans un restaurant juste à côté du Bundestag il y a un mois environ. Et il y avait, c'était une grande, grande, grande salle. Bon, il y a beaucoup de journalistes, beaucoup de personnalités politiques qui déjeunent toujours dans ce restaurant. Et la table du milieu était occupée par Tino Chrupalla, donc le coprésident de l'AfD, et puis son équipe, et puis d'autres députés qui étaient là. Ils étaient une petite dizaine, ils étaient au centre de la salle. Et ils parlaient très fort, ils étaient là, ils s'imposaient vis-à-vis de tout le reste du petit monde, la petite bulle médiatique et politique de Berlin qui était dans ce restaurant. Et quand ils sont sortis, le torse bombé, fiers, ils se sont bien fait montrer. Et il y a eu, au moment où ils ont claqué la porte derrière, comme un sentiment un peu de soulagement parmi tout le monde, disant « Ok, ils sont plus là ». Ils avaient mis une sorte de malaise. Et donc, je pense que ben, la politique allemande, elle va devoir jouer et agir et fonctionner avec l'AFD qui est là et qui cherche évidemment à perturber le jeu parlementaire, à siphonner toutes les voix qu'elles peuvent avoir en utilisant des méthodes calquées sur celles des États-Unis, fausses informations, en permanence cette petite musique de Friedrich Merz n'a pas été véritablement élu. Donc ça, c'est typiquement le discours de Trump, puisque les gens ont voté pour une majorité de droite et il fait une majorité avec la gauche. Il aurait dû s'allier avec nous. Ce n'est pas le vote populaire. Le vote populaire voulait autre chose. Regardez, il fait campagne en disant qu'il ne fait pas de dette et finalement, il en fait. Et finalement, il s'allie avec le SPD. Et pour revenir à votre question, en fait, je crois que là, je parlais de l'esprit d'homme d'État et l'esprit d'histoire un petit peu de Merz. Bon, il n'avait pas le choix de faire de l'endettement pour pouvoir financer sa politique à l'heure des défis énormes qui sont les nôtres. Se pose la question maintenant d'un possible endettement européen, au niveau européen, pour financer notamment les dépenses de défense. C'est une position qui est poussée par la France depuis longtemps. Et l'Allemagne dit non. L'Allemagne a dit on s'est endetté une fois au moment du Covid et c'est einmalig, on le refera plus jamais. Et évidemment, là, les Français voudraient un petit peu profiter de ce moment positif avec Merz pour pousser cette idée. Je pense que ça serait très dangereux. Et à la CDU, il y a beaucoup de gens qui commencent à dire non, on a donné de l'eau au moulin de l'AFD. En revenant sur nos promesses en Allemagne, on ne peut pas le faire au niveau européen. Il faut se rappeler que l'AFD est née de ces rejets d'un endettement commun ou d'un partage du fardeau financier au niveau européen au moment de la crise grecque. Et l'AFD a un peu quitté ce terrain en s'occupant maintenant essentiellement des questions d'immigration, évidemment. Mais si, donc elle est très forte en disant que la CDU n'arrivera pas à résoudre ces questions d'immigration puisqu'elle s'est alliée avec la gauche, si en plus la CDU lui donne des arguments pour maintenant dire « Regardez, et en plus, par ailleurs, on paye pour tout le monde », ça peut être effectivement très dangereux. Et je pense que Friedrich Merz, un peu échaudé par ce qui s'est passé ces dernières semaines, n'ira donc pas sur ce terrain au niveau européen. Il est lui-même un peu plus souple sur le sujet que la CDU elle-même. Hein, c'est quand même un homme qui est capable d'aller plus loin que ce que le parti, que les lignes rouges posées par le parti. Mais il l'a fait une fois, je ne sais pas s'il le fera une deuxième fois.
Donc, on a parlé de l'AFD en Allemagne comme première force politique au Bundestag. En France, le Rassemblement est aussi la première force. Parti d'extrême droite. J'aimerais bien maintenant aller sur une ligne de comparaison institutionnelle. Donc parfois, les négociations de coalition, ce qu'on voit en Allemagne, sont très complexes, durent longtemps. Et en France, ça marche de manière différente. Donc quel enseignement est-ce que Paris peut aussi tirer de ce système de négociation du modèle allemand? Et est-ce qu'il y a peut-être des éléments qu'on peut transposer du système politique allemand au système français
Je crois que la première idée, et c'est ça qu'il faudrait que les Français comprennent, c'est que faire des compromis, ce n'est pas se compromettre. Et les deux mots se ressemblent beaucoup en français. C'est pour ça qu'on confond et qu'on se dit, voilà, il n'a pas fait un compromis, il a fait une compromission. Et ça, il faut vraiment comprendre que... on ne peut pas faire de la politique parlementaire, dans un régime parlementaire, sans faire des compromis. Et sans faire des arbitrages, peut-être. Les Français comprendraient peut-être mieux ce mot. Mais en tout cas, ça ne veut pas dire tendre la main à l'autre et accepter une partie du projet de l'autre pour mieux faire passer une partie du sien. Je crois que c'est quelque chose qui est profondément ancré, évidemment, dans l'ADN politique allemand et qui, sur le papier, beaucoup de gens en France disent ça serait bien de le faire, mais dans la réalité, on en est vraiment très, 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 très loin. Donc, je crois que c'est l'idée centrale. On l'a vu, en fait, d'une façon assez spectaculaire et je dois dire que ça m'a fait chaud au cœur. Le 6 mai, le jour de l'élection de Friedrich Merz au Bundestag, il y a donc ce fameux choc. Il échoue au premier tour. Jamais un chancelier n'avait... eu à vivre cette gifle magistrale qu'a vécu Friedrich Merz, à savoir pas de majorité au premier tour, il faut un deuxième tour de scrutin pour élire le chancelier. C'était pas prévu par les protocoles du Bundestag, puisque ça s'était jamais fait, et normalement il aurait fallu attendre quelques jours pour organiser ce deuxième tour. Or, il y avait cet agenda européen, Merz était attendu à Paris, à Varsovie, à Bruxelles, puis à Kiev. C'était impossible, ça aurait été un signal absolument désastreux à l'égard des autres partenaires de ne pas avoir un chancelier le soir du 6 mai. Donc il faut à ce moment-là négocier avec l'opposition pour demander qu'il y ait un vote. Et là, il faut les deux tiers des députés allemands qui valident le fait qu'on organise un deuxième vote le même jour. Et donc ça veut dire que la CDU-CSU est allée voir Die Linke, avec qui elle avait toujours dit « jamais, 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 on ne fera d'accord », en lui expliquant que au nom de la démocratie, au nom des attentes, au nom de l'urgence internationale, eh ben, ils avaient besoin des voix de Die Linke pour faire voter cette motion autorisant un deuxième tour de scrutin. Die Linke l'a fait, les Verts l'ont fait, ils l'ont expliqué d'ailleurs à la tribune du Bundestag en disant « ce n'est pas un feu vert pour votre politique ». Nous ne soutenons pas votre politique, nous ne voterons pas pour vous au moment du vote de ce deuxième tour, mais nous acceptons le vote de la motion au nom de la démocratie. Et je crois que ça, on a vraiment l'essence du système allemand, c'est-à-dire la capacité d'aller au-delà des intérêts personnels pour le bien commun. L'AfD est le seul parti qui, pour l'instant, n'est pas sur cette ligne-là. À suivre, on verra s'ils entament un chemin de plus vers le centre. Ils ont choisi de ne pas se dédiaboliser, contrairement au Rassemblement national. Des choses qui sont transposables, peut-être, c'est l'apprentissage de la discussion, l'apprentissage de... et ça, c'est, on peut le voir parfois en campagne électorale en France, c'est-à-dire ne pas oublier que l'adversaire politique n'est qu'un opposant et pas un ennemi. En démocratie, si on considère qu'on est tous des démocrates, on n'a pas d'ennemis. En démocratie, il y a des ennemis de la démocratie, mais à partir du moment où on respecte le cadre de la démocratie, nous sommes des opposants et c'est très sain qu'il y ait une opposition très forte. Mais et donc apprendre à se parler, à se respecter. Juste après l'élection, donc au deuxième tour de Friedrich Merz, l'ensemble des députés se lèvent et vont le saluer. Il y a eu des accolades entre des gens des Verts et puis Friedrich Merz. Il y a eu parfois des mains serrées un peu froidement, mais on reconnaît. Cette capacité de l'autre à remporter les élections et on est dans un rapport sain de l'opposition politique.
On a brièvement parlé de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Est-ce que ce format d'échange et de négociation peut aussi servir à cette fin, notamment avec le nouveau gouvernement en place?
Oui. Absolument, je trouve que c'est un outil et un acteur, cette assemblée parlementaire franco-allemande, qui est très intéressant, mise en place donc par le traité d'Aix-la-Chapelle en 2019. Alors, ce traité d'Aix-la-Chapelle, je dois faire mon mea culpa journalistique, quand il est arrivé, on a pris ça comme étant un joujou supplémentaire, parce qu'on se disait que le président Emmanuel Macron et que la chancelière Angela Merkel voulaient peut-être avoir un petit peu aussi... leur texte à eux pour marquer la relation franco-allemande à un moment où c'était pas évident de faire des choses ensemble. Moi je l'ai un peu, enfin on l'a un peu ignoré ce traité d'Aix-la-Chapelle en 2019 en se disant bah voilà, c'est une boîte à outils, c'est assez technique et en réalité le Covid est arrivé et on s'est rendu compte que ces nouveaux outils qui étaient un peu créés, que ce soit le Fonds citoyen franco-allemand, le comité transfrontalier et cette fameuse assemblée parlementaire, étaient des bons relais de la parole politique, étaient des bons relais du franco-allemand au quotidien, d'une façon très concrète. Au cours des 4 dernières années, où ça a été peut-être un petit peu plus difficile au plus haut niveau entre le président et le chancelier, eh bien, la relation franco-allemande était extrêmement vivante grâce à ces outils-là, en fait. Même si c'était un peu endormi au plus haut niveau et qu'on nous disait que c'était extraordinaire quand on partageait un Fischbrötchen à Hambourg, alors que personne n'était dupe sur le fait que c'était quand même compliqué personnellement entre le président et le chancelier. Mais voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver. Parfois, les hommes, les femmes politiques ne s'entendent pas. On peut avoir aussi, peut-être dans le futur, des situations vraiment d'opposition politique avec un pays qui arrive avec un représentant d'extrême droite et puis un autre qui est de droite ou de centre droite ou de centre gauche. Et donc, c'est très important qu'il y ait cette fondation, ce fondement, cette base très concrète de la société civile. Et on a vu notamment un moment compliqué où il y avait eu vraiment des mots durs échangés entre le président et le chancelier Scholz, toute une séance de l'Assemblée parlementaire franco-allemande qui recevait les ministres des Affaires étrangères. Et Annalena Baerbock est restée extrêmement longtemps, s'est soumise aux questions des députés, a vraiment répondu. Intéressant aussi de voir il faut s'écouter, il faut comprendre que les députés AFD sont présents dans cet hémicycle aussi, que les députés du Rassemblement national, les députés de la France insoumise. Et donc, c'est effectivement une mini-démocratie, une mini-enceinte de la démocratie qui est particulièrement intéressante et qui, pour l'instant, n'en est qu'à ses débuts, mais qui pourrait vraiment devenir incontournable dans la bonne conduite de ces relations qui sont évidemment hyper importantes pour l'Europe, hyper nécessaires, pas suffisantes évidemment, mais qui sont là. Et je dois dire que cette société civile, elle a été à l'origine des relations franco-allemandes. La politique est arrivée bien après. C'est d'abord des hommes et des femmes tout seuls, en petits groupes, qui ont décidé de renouer des liens en 1948, la création du DFI, on est trois ans après la guerre, et qui ont su petit à petit convaincre la politique. Et je pense que quand la politique n'est pas au niveau, la société civile, elle prend le relais. Et c'est aussi pour ça que je fais le podcast, c'est parce que je pense qu'il faut qu'on se connaisse beaucoup mieux pour faire les choses ensemble et que décrypter la politique allemande et l'état de la société allemande, ça permet ensuite de créer des ponts et d'avancer dans ce franco-allemand avec le risque qu'un jour, peut-être, la politique ne suive pas, mais au moins, ces liens seront là. Moi, je dis toujours, toutes ces familles franco-allemandes, tous ces échanges franco-allemands, c'est eux qui empêcheront que la guerre arrive entre nous, si un jour elle doit arriver. Je ne pense pas qu'elle arrivera bientôt, en tout cas, c'est... Et je pense surtout qu'elle n'arrivera pas parce qu'on est là.
Donc oui, il faut continuer à se battre pour ces idées, aussi prendre de nouvelles initiatives. J'aimerais bien élargir un peu la focale. Donc le triangle de Weimar est aussi en format qui crée de nouvelles initiatives législatives et autres. Donc on a parlé de la visite à Kiev, où justement les trois chefs d'État et de gouvernement étaient sur place. Donc, avec un gouvernement CDU-SPD, est-ce qu'on pourrait s'attendre à un renforcement ou plutôt à un affaiblissement de cette coopération entre l'Allemagne, la France et la Pologne, par exemple en matière de politique de défense et aussi dans d'autres domaines?
Alors, c'est une priorité aussi personnelle de Merz. Il a toujours énormément insisté pendant la campagne électorale, peut-être même plus que sur la relation franco-allemande, sur la nécessité de renouer des liens étroits avec la Pologne. Il y a un alignement avec Donald Tusk, donc le premier ministre polonais, qui fait partie du PPE, donc au niveau européen de la même famille politique que la CDU. Donc, puis c'est un homme qui travaille bien aussi avec Emmanuel Macron. Donc, je dirais sur le papier, c'est facile. Et effectivement, Merz veut réinvestir cette relation d'une manière très forte parce que la Pologne, c'est une économie qui fonctionne, parce qu'elle a investi d'une manière massive dans son armée et qu'elle va peut-être devenir dans les prochaines années la première armée conventionnelle du continent et qu'on ne peut pas faire sans elle quand il s'agit de s'aligner pour une politique face à la Russie, clairement. C'est très important. Après, c'est très, très compliqué. On n'est pas du tout au même niveau que dans la relation franco-allemande. Il y a des gros différends. La question des réparations de guerre n'est pas réglée. La Pologne s'accroche à des choses très symboliques. La première mesure concrète prise par le gouvernement Merz, c'est quand même de rétablir les contrôles systématiques aux frontières. Et on a vu lors de la conférence de presse Donald Tusk très, très, très irrité sur cette question-là, de très mauvaise humeur. Il va falloir bosser pour que entre Berlin et Varsovie, ça soit absolument harmonieux. Il va falloir travailler. Le fait qu'il y ait eu le 9 mai la signature de ce traité entre la France et la Pologne, voilà, je pense que c'est plus simple d'avancer à trois dans cette situation en fait. Et donc c'est effectivement un atout. On le voit depuis 2-3 ans. Hein. La relation franco-allemande patinait un peu sous les dernières années de Scholz et on la réinvestissait à travers ce triangle de Weimar. C'est intéressant. Il faut que ça se concrétise très très précisément. Il y a des. En fait, c'est toujours difficile de faire quelque chose à trois, hein, parce qu'il y en a toujours un qui se sent un peu à l'écart. Sur la défense, la Pologne, encore plus que l'Allemagne, est dépendante des États-Unis ou a été dépendante des États-Unis. C'est un pays qui est quand même qui est profondément pro-OTAN. C'est sa défense existentielle. Hein. Et donc du coup là, se détacher des États-Unis, c'est nécessaire, mais c'est difficile. Merz lui-même a lentement, alors qu'il vient pas de là, c'est quand même quelqu'un qui a dirigé ce groupe du transatlantique, donc c'est vraiment un homme très très proche de Washington. Mais bon, là, il a avancé. On l'a entendu dans la conférence de presse avec Macron. Il parle d'une préférence européenne pour les achats d'armes, etc. Ce qui aurait été inconcevable sous Scholz. Donc il avance, mais voilà, quelle position va prendre la Pologne? Pologne plus Allemagne, ben, y a quand même encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de liens avec les États-Unis. Ça ne sera pas facile pour la France de pousser son agenda vraiment de souveraineté complète pour la défense européenne. Voilà, c'est une constellation intéressante, prometteuse, mais il va falloir travailler.
Et j'aimerais bien terminer avec une pointe sur justement le concept de stratégie, d'autonomie stratégique ouverte. Donc la question qui se pose aussi à beaucoup de personnes qui sont en faveur de plus d'intégration européenne, c'est que Macron, il a quand même donné deux discours de Sorbonne en 2017 et 2024. Il y a plein d'éléments qui se retrouvent maintenant dans les lignes politiques aussi de ce nouveau gouvernement. Est-ce que l'ancien gouvernement aurait peut-être dû accorder plus d'attention à ces discours-là et quel impact des idées dedans dans la future coopération entre l'Allemagne et la France pour l'Europe?
Alors, je crois que la réponse, c'est oui. L'Allemagne aurait dû faire plus attention à ces discours. Et on l'a dit dès le mois de septembre 2017, hein, quand Macron a prononcé son premier discours de la Sorbonne. Alors, l'Allemagne était en élection législative. On a mis plus de 6 mois avant d'avoir un contrat de coalition. C'était la grande coalition avec le SPD. C'était très difficile pour Angela Merkel. Je pense que Paris a compris que la chancelière ne pouvait pas se positionner. Et puis ensuite, on a, comme souvent au cours des 20 dernières années, on a un petit peu laissé la poussière retomber sur les idées franco-allemandes. Et puis on s'est dit, on parlera d'autre chose. Et puis il y a eu le Covid. Et puis il y a eu ceci. Et puis il y a eu cela. Et on a un peu mis les choses sous le tapis. Et au plus tard, en février 2022, M. Poutine est arrivé et il nous a volé notre tapis. Et on a vu tout ce qu'on avait mis sous le tapis pendant toutes ces années-là. Et notamment cette discussion très importante sur la souveraineté, l'autonomie stratégique de l'Europe, etc., mise sur la table par Macron. Alors, il y a eu ce deuxième discours en 2024. Donc là, les Allemands ne peuvent plus dire que c'était sous le tapis, puisqu'il n'y a plus de tapis. Et je crois que c'était quand même l'un des enjeux de cette campagne électorale. On l'a bien vu lors des débats. Merz mettait ces questions-là sur la table. Alors, il y a une première réponse de Berlin, je pense. En tout cas, j'invite tout le monde à aller réécouter le discours fait par Friedrich Merz fin janvier devant la Körperstiftung à Berlin. Donc, il a fait un discours pour présenter sa politique étrangère. C'est sa volonté, c'est sa vision du monde aujourd'hui et du positionnement que l'Allemagne devrait avoir dans cette situation. C'est un discours que je trouve très intéressant, très riche, où il pose beaucoup de jalons. Il dit notamment que sa priorité, c'est de profiter des 2 dernières années du mandat d'Emmanuel Macron pour concrétiser ensemble, zusammen, il dit, cette vision de la souveraineté européenne. Donc, voilà, on a vraiment quelqu'un qui veut agir, qui veut répondre à Paris. J'ai pu m'entretenir avec des gens qui étaient dans l'équipe qui était du voyage de Friedrich Merz à Paris et qui ont donc vu ces premiers échanges très intenses avec le président. Et les infos que j'ai, c'est qu'on a tout mis sur la table. Et que ça aussi, c'est peut-être le signe que c'est un nouveau départ. C'est que voilà, on se dit les choses et on n'évacue pas les questions douloureuses. Il va y avoir des arbitrages à faire et ça va être difficile. Je pense notamment aux grands projets industriels autour de la défense, l'innovation de la défense, les arbitrages à faire sur le spatial, quelle start-up va être privilégiée, des Françaises, des Allemands, etc. Il va y avoir des arbitrages à faire. Pour l'instant, on n'est pas d'accord. C'est l'essence du franco-allemand, on n'est jamais d'accord. Et c'est ce qui fait que ça devient beau et que ça fonctionne au niveau européen, c'est quand la France et l'Allemagne arrivent avec un projet commun, finalement, ça emmène un peu tout le monde. On est sur un point d'équilibre assez parfait au niveau européen. Et donc, il va falloir les faire. Et l'avantage, c'est qu'au moins, il y a une prise de conscience et une volonté d'aller vite sur des arbitrages. Alors, ça sera peut-être douloureux d'un côté ou de l'autre. Mais l'idée, c'est d'avancer ensemble. Et j'espère qu'on sortira de ce modèle qu'on a entendu pendant des décennies. Et encore une fois, mea culpa, parce que la presse a largement contribué à ça. Après chaque sommet européen, j'avais des chefs à Paris dans mes différentes rédactions qui me disaient « Alors, qui c'est qui a gagné? C'est la France ou c'est l'Allemagne ?» Qui c'est qui a réussi à s'imposer? C'était au moment de la crise grecque, au moment de la crise des subprimes, etc., et qu'il fallait prendre des décisions. Qui s'est imposé? Paris ou Berlin? Et j'avais envie de dire, bah, qui c'est qui a gagné? Est-ce que c'est pas l'Europe? Est-ce qu'il faut pas se poser la question, est-ce que l'Europe a gagné? Ben oui, il y a peut-être un arbitrage, et oui, cette fois-ci, c'est les Français qui ont lâché, ou cette fois-ci, c'est les Allemands. Mais au final, c'est nous tous ensemble qui gagnons. Et je crois que ce récit-là, il faut vraiment qu'il marque les esprits. Et de se dire que oui, ben oui, il y a peut-être une start-up allemande qui va disparaître parce qu'on a donné le contrat plutôt à une start-up française, ou une start-up italienne, ou une start-up portugaise, que sais-je. Mais l'idée, c'est qu'ensemble, on arrive à avoir des lanceurs qui sont opérationnels pour maîtriser notre espace, avoir une souveraineté, qu'ensemble, on ait un char du combat du futur, qu'ensemble on arrive vers cette souveraineté, sans doute au sein de l'OTAN, si on parle des questions de la défense, parce que l'OTAN, c'est bien plus que seulement les États-Unis et l'Europe, c'est aussi le Canada, etc. Il y a la Turquie, donc c'est quand même quelque chose de très important, mais ce pilier européen au sein de l'OTAN, on a tout à gagner, à le développer tous ensemble.
Eh ben, un grand merci pour cette interview bien enrichissant et aussi avec plein d'exemples de tes expériences professionnelles. Donc, merci Hélène pour votre temps et vif recommandation pour le podcast avec Anka.
Merci beaucoup.
Merci aussi de ma part à Hélène Cole pour cette discussion enrichissante ainsi qu'à Christiane pour l'interview. L'Allemagne fait donc face à de multiples défis dans la politique intérieure comme sur le plan européen et international. C'est dans ces moments qui semblent nécessaires pour le nouveau gouvernement de Friedrich Merz de souligner l'importance des relations étroites entre la France, l'Allemagne et la Pologne comme force intégratrice dans l'UE et en Europe. Considérant la composition du Parlement avec l'AfD comme plus grande force d'opposition, il semble aussi indispensable que les partis démocrates s'alignent pour faire avancer les projets politiques et stabiliser la démocratie libérale. La politique est un domaine complexe, mais qui nous concerne tous et toutes. Par la suite, nous espérons que cet épisode a pu vous donner une impression du sujet ainsi que du futur des relations entre les deux côtés du Rhin et au-delà. Merci aussi pour votre écoute. Cela m'a fait plaisir de vous accompagner. Tu aimerais bien qu'on aborde un sujet à travers la perspective franco-allemande dans un contexte européen où tu as des suggestions? N'hésite pas à commenter sur l'épisode même ou de nous envoyer un mail à podcast@cfag.eu. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis bald! L'interview a été menée par Christian Bissinger. Rédaction: Carla Schäpe, Lucia Schreiner, Christian Bissinger, Daniela Rau et Anna Kevin. Montage: Carla Schäpe.